Bonjour, c'est Eva Green. Vous écoutez Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti!
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, mais je lisais déjà beaucoup de livres. Après tout, on n'a pas besoin d'être grand pour lire. Par exemple, on peut être nain ou cul-de-jatte et adorer la lecture. Bon, après, c'est la taille des livres qui compte, mais c'est une autre histoire. Quand j'étais petit, je lisais donc plein de livres et grâce à eux, mon esprit vagabondait et mon imagination s'enflammait. Mais si j'étais petit, aujourd'hui, mon choix serait infiniment plus restreint. Tiens, si je m'intéressais aux contes, par exemple, je l'aurais dans le baba. La petite sirène d'aujourd'hui, non seulement elle est gavée de plastique et de métaux lourds, mais en plus, ils ont pêché la dernière il y a une semaine. Le roi lion, il vient de se prendre une balle d'un de ces gros contes chasseurs de trophées qui paient des fortunes pour aller exterminer les plus beaux spécimens de la faune sauvage. Et le vilain petit canard, dont nous parlerons plus tard, et bien l'approche des fêtes de Noël lui a fait soudainement prendre conscience que son foie était extrêmement convoité. Quant à peau d'âne, elle risque surtout la panne d'eau, potable. Comment faire pour se consoler? Tout simplement en lisant Marie Desplechin qui vient d'écrire un livre où elle explique aux plus jeunes que s'ils veulent vivre dans un monde avec des sirènes, des lions vivants, des canards et des peaux d'âne, c'est à eux de changer les choses maintenant. Marie Desplechin est l'invité de Pop Pop Pop.
Pop Pop Pop. Antoine de Paune.
Eh oui, avec nous une star du livre jeunesse, Marie Desplechin. Bonjour Marie
Desplechin.
Bonjour et bienvenue dans ce studio. Merci. À mes côtés, celle qui a carburé toute sa jeunesse à la fantomette, ma Charlinette Roux.
Bonjour Antoine, bonjour Marie.
Bonjour,
bonjour. C'était bien Fantomette.
Ah oui, c'était bien.
C'est bien toujours.
Framboisie, tout ça.
Ouais. Continuez à le lire, j'imagine.
Ouais. Ouais. À ma fille.
Voilà, c'est ça, oui. Avec vous, Marie Desplechin, tout de suite, nous allons parler de votre manifeste à l'usage des citoyens en herbe et avec nous tout à l'heure, Arnaud Valois qui a remasterisé Le vilain petit canard. Mais avant ça, Marie Desplechin, ici, il existe une question préliminaire, une question encore plus entêtante que le speech de Greta Thunberg à l'ONU, remixé par Fatboy Slim.
Right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here.
Et cette question, right here, right now, c'est... Marie Desplechin, pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses maritives, Desplechin-chine, grétative et même fatboy limesque. Et parmi mes préférés, il y a celle du papa de Titeuf, Zep.
Pour moi, être statufié dans la pop culture, c'est avoir un distributeur Pez à son effigie. Là, voilà, là c'est vraiment high level.
C'est le top, quoi. Ouais. Zep qui parle de Pez, bien. Et pour vous, Marie Desplechin?
Alors, ça va être moins drôle, mais la question, elle est dure en même temps. Alors, c'est pas la différence entre avec la culture savante, parce qu'elles peuvent passer, voilà, la pop culture, elle peut devenir savante du jour au lendemain. En fait, c'est la distinction, c'est sociologique. C'est-à-dire que la pop culture, c'est tout ce qui ne vous servira pas à briller en société. Et par exemple, si vous dites dans un dîner mondain que vous lisez, alors je peux prendre mon nom, Marie Desplechin, mais je peux te prendre, je sais pas, Claude Ponty, Edouard Solotareff, ou alors là, vraiment, vous êtes nul, c'est minable, il n'y a rien à en faire socialement. C'est... Et pourtant, ça existe. Donc, la pop culture, j'y appartiens au titre d'auteur jeunesse.
Très bien, voilà une définition qui me convient. Charline ? On valide. Et j'ai bien entendu qu'il faut prononcer Desplechin et non pas Desplechin, comme je
vous
l'ai fait.
Vous faites comme vous voulez en même temps. C'est les gens du coin qui...
C'est mon émission, vous avez raison. C'est les gens du coin de quel coin?
Eh ben c'est Desplechin, c'est un bled en Belgique à 15 km de Lille, près de Tournai.
Ah,
les Desplechin sont des gens qui viennent Desplechin travailler au moment de la révolution industrielle.
Bien. Eh bien, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop 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 avec vous, Marie Desplechin, juste après le morceau dont vous parliez ici, Charline, dans vos pop news il y a quelques jours, Then There We Were Two, signé de la rencontre entre Mark Ronson et Anderson Paak pour la BO du film d'animation Les Incognitos.
And then there were two. Right now we have to stop somewhere. How far to go, I don't care. Just when I
right now we have to stop somewhere. How far to
Le duo pop Mark Ronson et Anderson .Paak pour Then There Were Two, extrait de la BO du film d'animation Les Incognitos qui sort le 25 décembre. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une invitée qui écoute aussi bien Eminem que Bach. Qui est cette invitée qui aime les mash-up étrangement pop? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, Marie, c'est bien sûr votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et il est signé Charline.
J'ai obligé de le faire sur ce temps-là, du coup. Non. Aujourd'hui, une invitée providentielle. Parent, oui, elle est là. Elle est là, celle qui est capable d'articuler dans ses romans une réponse sensée à toutes les questions posées par nos mots, mais auxquelles on répond invariablement par un « Non, mais c'est compliqué. Tu veux pas un treat ?» Oui, j'élève une enfant dans les années 80. Alors, pas des questions techniques, hein, de type « Comment ça marche ?» Pour ça, on a Jamie ou Michel Chevalet, pour les gens qui élèvent leur mouflet aussi dans une autre décennie. Non, des questions du genre métaphysique. Pourquoi ? Où vais-je ? Et de l'ordre du ressenti et des émotions. J'aime, j'ai peur, je me sens différent. Oui, bon, tu veux un raideur ? Alors, une invitée qui, par ses écrits, aide aussi nos progénitures à s'émanciper. Mets donc des figolus dans ton sac, chérie, avant de partir de la maison. Pas étonnant que sa série verte soit lue dans les écoles. Ses vertus sur les prémices de la crise d'ado sont prouvées par la médecine. Bonjour, docteur Roux, enchanté. Marche aussi avec le journal d'Aurore, hein, puisque je vous rappelle que la charte des parents stipule qu'il est interdit de lire le journal intime de son propre enfant, autant lire celui d'une autre. Notre invité évoque aussi les souvenirs dans le sac à dos d'Alphonse, la spiritualité dans Et Dieu dans tout ça, le refus du déterminisme dans Séraphine et bien d'autres choses encore. Et providentielle, elle l'est encore aujourd'hui en venant témoigner de sa grande confiance en nos enfants pour traiter la planète mieux que leurs irresponsables parents. Vous voulez des chamoniques, Antoine ?
Non merci, j'attends les premières neiges. Invité providentielle.
Ça fait peur. Hein.
C'est lourd à porter, ça, non ?
Ouais, c'est horrible. Je me cherche où est la personne, en fait, dans ce studio, et je ne la vois pas. Je me sens super seule.
Moi, vous m'avez rendu des services. Hein.
Bah, écoutez, vraiment. tant mieux. Ça me fait plaisir.
C'est vous l'invité providentiel, Marie Desplechin. Sur votre planète pop, il n'y a pas que Bach et Eminem, la preuve, avec votre pop-list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, paru entre 1954 et 1955. Charline, je sais qu'il ne faut jamais spoiler un ouvrage, mais faites une exception pour moi, j'ai jamais réussi à aller au bout de la trilogie.
Ah non, je vous raconte pas la fin.
Ah ouais.
Royaume de la Terre du Milieu, le jeune Frodon Sacquet poursuit sa quête, détruire l'anneau unique afin qu'il ne tombe pas entre les mains de Sauron, le seigneur des ténèbres. Pour cela, il est aidé par son serviteur et fidèle ami Sam Gamgee, Gandalf le magicien, Aragorn l'héritier d'une longue lignée de rois, Boromir du Gondor, Gimli le nain et Legolas l'elfe. Je ne vous donne pas la suite.
Marie Desplechin, auriez-vous la gentillesse de nous en lire un extrait, s'il vous plaît ?
Alors, c'est pas un extrait, hein, c'est le prologue, ça couronne un petit peu tout avant d'entrer dans la lecture. Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel. 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés au trépas, 1 pour le seigneur des ténèbres sur son sombre trône dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres, 1 anneau pour les gouverner tous, 1 anneau pour les trouver, 1 anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Vous n'avez pas envie de le lire, maintenant ?
Si, bien sûr que vous me donnez envie de le lire. Mais c'est toujours un peu long pour moi. Et puis
il est très long, oui.
Moi, dans la fantasy, je m'égare un peu. Mais enfin bon, c'est très personnel.
Bon, bah regardez le film.
Mais regardez, j'ai adoré les romans de la Table Ronde, par exemple. Voyez-vous ?
Ah, vous êtes paradoxal.
Oui, je sais. Bon. Je suis fait de paradoxes. Marie Desplechin, d'où vient cette fascination pour les elfes et d'une manière plus générale pour les personnages avec des oreilles pointues ?
Comment vous voulez que je réponde à une question pareille? Tout le monde a envie de voir des êtres différents, en fait, non?
Oui.
Vous trouvez pas? De voir que des humains, c'est saoulant. Mmh. C'est pour ça qu'on aime tant les animaux aussi. Mmh. Voilà, les elfes, c'est un petit peu une autre sorte de créature, quoi. Ça nous change, c'est un peu vacances.
Mmh. Et donc, le Seigneur des Anneaux, ça vous a complètement embarqué?
Ah bah alors, je suis désolée, je fais des réponses sérieuses. Allez, le Seigneur des Anneaux, je l'ai lu la première fois, j'avais une vingtaine d'années. C'est mon petit frère qui était dingue, donc j'avais suivi. Et après, je l'ai relu plusieurs fois dans ma vie, et chaque fois, ça change. C'est vraiment, c'est un espèce de prisme. Et tout le temps que vous le lisez un peu de temps après, ça change votre regard sur le monde. Mmh. Quand vous promenez, vous voyez vraiment des gens qui ressemblent à des elfes, vraiment des orques, vraiment des gobelins. Et là, en le lisant maintenant à 60 ans, quoi, il est incroyable, il est prophétique, il est très beau, il est bourré de punchlines.
Vous l'avez donc relu récemment?
Oui, c'est pour ça que je l'ai mis.
Ouais.
Et vous aimez ce que Peter Jackson en a fait pour le cinéma?
Oui, c'est pas mal du tout. Franchement, il s'en est bien sorti. Après, par rapport au livre, il manque plein de gens, quoi. Ouais, il n'y a pas
forcément.
Tant de Bombadil. Oui, c'est normal. Mmh. C'est normal.
Bien, Marie Desplechin, pour le film, vous avez choisi non pas Le Seigneur des Anneaux, mais Bouge pas, meurs, ressuscite, ou Zemli Uri Kovrokashny, en VO, du réalisateur russe Vitaly Katnevski, caméra d'or en 1990 au Festival de Cannes. Charline, je m'y perds un peu dans toutes ces injonctions. Je ne bouge pas, je meurs, je ressuscite, qu'est-ce que je fais alors?
Bah, bougez pas plutôt. Les amours de deux jeunes adolescents en 1947 à Souchan, petite ville d'Extrême-Orient transformée en zone de détention.
Zamri Umri Vorkrishni, c'était la bande-annonce donc de Bouge pas, meurs, ressuscite. Sentez-vous libre de m'expliquer en russe si vous le voulez, Marie Desplechin.
Pourquoi je parle pas aussi bien que vous, Laurent.
Pourquoi vous avez une telle passion pour ce film?
Alors j'avoue que ça plombe peut-être un peu l'ambiance.
Allez-y.
Oui, alors vous n'avez pas vu Le Seigneur des Anneaux, vous n'avez pas vu Bouge pas. Eh ben voyez-le, vous allez voir. Parce que
j'en ai beaucoup entendu parler en revanche.
Ah bon?
Oui, on en a beaucoup parlé.
Parce que
de ce
je
film.
Sais pas s'il y a tant de gens qui. C'est un film. Il y a pas d'équivalent à ce film. Mm-hmm. C'est sur l'enfance. Il utilise ses souvenirs à lui. En fait, il a grandi dans ce type d'environnement et c'est filmé par des acteurs géniaux et ça vous marque à jamais. Il y a peu de films qui vous marquent de cette manière-là. Et c'est pas d'une gaieté folle, hein, mais sur l'enfance, c'est extraordinairement juste, beau, poignant. Et ça se termine par ressuscite, le titre, c'est déjà pas mal.
Très bien, je vais le regarder dès ce
d'accord,
week-end.
Hein,
je m'y engage.
Je vais me faire engueuler.
Mais non, pas du tout. Marie Desplechin, pour la série, vous avez choisi The Wire, créé par David Simon.
Il y a des trucs drôles, vous remarquez quand même. Hein. Depuis le début, on est là pour rigoler quand même.
Diffusé sur HBO entre 2002 et 2008. Charline, nous avons déjà souvent évoqué cette série extraordinaire dans Pop Pop Pop. Voici mon défi.
Oui.
Apprenez-nous, à Marie et à moi, quelque chose que nous ne sachions déjà.
Je vais tenter un truc. Tom Waits, le compositeur du générique, Way Down in the Hole, était d'accord pour que les producteurs utilisent sa chanson, mais à une condition, lui laisser d'abord voir la série. Des cassettes vidéo lui ont été envoyées, mais aucune réaction. Les producteurs ont fini par appeler Tom Waits, qui a répondu qu'il avait bien reçu les cassettes, mais qu'il ne pouvait pas les lire parce qu'il ne savait pas comment utiliser son magnétoscope. Mais il a fini par voir et ils ont signé.
Alors,
super,
on a un petit bout de bande-annonce de The Wire, non?
Monsieur Little, quel âge avez-vous?
29 ans, à peu près.
Et où habitez-vous?
J'ai pas vraiment d'adresse, madame.
Vous êtes sans domicile fixe?
Ah, disons que je circule plutôt.
Et quelle est donc votre profession?
J'arnaque et je dépouille.
Vous...
Je dépouille les dealers de drogue.
Monsieur Little, comment fait-on pour voler des trafiquants de drogue pendant 8 ou 9 ans et être toujours vivant pour en parler?
On vit un jour après l'autre, j'imagine.
On vit un jour après l'autre, j'imagine.
L'art du doublage, quand même, c'est quelque chose. Hein.
C'est quelque chose.
Les Russes, vous les laissez en VO. Mais...
Oui, bah alors on essaye d'équilibrer un peu. Mais... Non. Bon, alors Marie Desplechin, répondez-moi franchement, est-ce que vous pensez que nous sommes sur écoute en ce moment précis?
Je sais qu'on est filmé.
Oui.
Et on est sur écoute en quelque sorte. Oui, c'est ça.
J'espère que nous sommes, parce que nous sommes à la radio. Bon, alors pourquoi ça, voyez?
Pourquoi quoi?
Pourquoi The Wire dans cette marée de séries autour de nous? Pourquoi d'accord. vous fixez sur The Wire?
Bah, c'est celle qui m'a le plus. J'ai pensé au New Pop aussi, qui m'avait bien fait rire. Mais parce qu'elle est extraordinairement documentée, la manière de raconter est incroyable, c'est toujours annoncé légèrement. on comprend avec un espèce de petit temps de retard, ce qui fait qu'on peut jamais lâcher. Les acteurs sont déments et on est vraiment dans un monde, quoi. J'ai l'impression de dire des banalités, je me mettrais des claques. C'est affreux, c'est l'après-midi.
Non, pas du tout.
Mais vous faites comme moi, vous dire, il y a Idriss Elba.
Non, Idriss Elba, non, plus
voilà, c'est ça.
On parle de la narration, on parle de l'écriture de David Simon.
Il y a des acteurs professionnels, des acteurs non professionnels, ils sont tous, enfin, c'est magnifiquement filmé, les intrigues, elles se mêlent génialement à la documentation et ça dit quelque chose du monde, voilà, c'est, ça dit le réel, quoi, c'est.
Bien, terminons Marie Desplechin cette pop liste avec votre chanson culte et cette chanson, c'est celle-ci. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Rapper's Delight, c'est le groupe Sugar Hill Gang, c'était en 79, une chanson que vous écoutez avec un gros ghetto blaster. Et en tournant sur la tête dans votre salon, j'imagine.
Non, mais je constate que d'abord, vous ne l'avez pas doublé, donc c'est énorme. Et je remarque aussi que pendant que ça a passé, je vous ai vu tous les deux, comme moi, et j'imagine que c'était pareil. C'est extrêmement contagieux. C'est la chose la plus joyeuse.
Et
cette joie est restée. Oui, exactement. C'était la récompense, en fait.
Rappeur,
c'était le dessert.
Bien, alors, je résume. Le Seigneur des Anneaux, Bouge pas, meurt, ressuscite, The Wire et Rapper's Delight. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne cette chose étrange.
Monsieur Little, quel âge avez-vous? Et où habitez-vous? Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. Vous êtes sans domicile fixe. Et quelle est donc votre profession?
J'ai arnaqué, je dépouille.
Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau
pour
les
amener
tous.
On vit un jour après l'autre, j'imagine.
Mm-hmm. Vous y retrouvez?
C'est beau, ouais, c'est bien. Ouais.
T'es émouvant, non?
Émouvant, je sais pas, mais enfin, ça marche.
Moi, ouais, rien m'émeut. Bon. Marie Desplechin, dans la suite de Pop, 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 on va parler de votre manifeste à l'usage des citoyens en herbe. Mais avant de sauver la planète, on écoute Love's Missing. C'est un nouvel extrait de Free, le dernier album de celui qui préserve la planète en ne portant plus de t-shirt Iggy Pop.
Popopop, Antoine Decaune
et Charline Roux. Marie, Claire, Curie et Antoinette sont les premiers résultats qui tombent quand je tape Marie sur Google. Mais aujourd'hui, nous sommes avec Marie Desplechin. Aujourd'hui, Marie Desplechin, vous venez nous présenter ce manifeste à l'usage des citoyens en herbe. Un manifeste qui se veut comme une déclaration de confiance envers les enfants, les ados et ceux qui n'ont pas encore l'âge de voter. Est-ce que c'est parce que les parents sont devenus sourds que vous préférez vous adresser aux enfants ?
C'est-à-dire que c'est vrai que le monde des parents est un peu désespérant et que c'est les enfants qui vont se prendre la vague. Donc c'est pas mal d'en parler avec eux.
On parle des problèmes climatiques.
Ah oui, pardon, hein, oui, on parle des problèmes en fait, environnementaux aussi, qui sont climatiques et qui concernent tout le désastre écologique en cours. Mmh. Et le fait de s'adresser aux enfants... C'est comme si ça allait de soi. Je ne suis pas la seule personne à penser ça. Hein. Mm-hmm. C'est que et eux-mêmes sont très d'accord qu'on leur en parle et très proactifs et qu'on peut leur donner quelque chose à faire et ils sont extrêmement sensibles et même ils sont militants. C'est-à-dire les mouvements des marches pour le climat, puisqu'il y en a eu une vendredi. Mm-hmm. C'est pris en main par des gens de leur génération. C'est-à-dire c'est pas organisé par des adultes. Et le fait que des adolescents puissent prendre en main un certain nombre de choses et ne soient pas, ça c'est très ancien. Mais là, c'est très beau de le voir revenir.
Mais alors moi, je vois un double bénéfice à ce livre, parce qu'on peut se demander si le livre s'adresse aux enfants d'aujourd'hui ou à ceux qui sommeillent encore un peu dans les adultes parents.
Vous êtes maligne. Je pense les deux, mademoiselle.
C'est à partager, forcément.
C'est à partager. Je raconte comment il est fait.
Bien sûr.
Ouais, alors, il y a 20 chapitres, et en fait, je me suis rendu compte, c'est en regardant les gosses autour de moi, c'est par exemple, vous jetez un truc à la poubelle, le gosse va se jeter sur vous et dire, jette pas ça, je vais le garder, je vais en faire quelque chose. Après, il entasse dans sa chambre, si vous le laissez faire, la chambre est une décharge, je vous conseille de le laisser faire, assez rapidement, deux trucs dont globalement, il n'arrive à rien faire, parce que techniquement, il n'a pas forcément les moyens. Mais en tout cas, l'élan de la transformation, de la récréation et du jette pas, elle est chez l'enfant, elle n'est pas chez vous. Ouais. Nous, on fait les courses, on jette des quantités de trucs, on fait pas gaffe, quoi. En fait, on a pris tellement d'habitudes, on est tellement bien formaté qu'on est incapable. Alors, je me suis rendu compte de ça, je me dis, ah, c'est marrant. Au lieu de lui dire de pas, faut lui dire ouais, continue, c'est ça, exactement ça qu'il faut faire. Mais après, vous tirez un fil, c'est vraiment la pelote vient avec, quoi. Donc, celui qui vous dit, mais je me suis déjà lavé hier, voilà. Qui ne connaît pas ce chapitre-là, ne connaît pas d'adolescent, et ben ouais, ok, et ben c'est pas la peine de te laver aujourd'hui. Voilà, écoute, prends un gant éponge, fais une toilette de chat, comme on faisait dans les années 50. Hein, ça veut pas dire qu'il sera sale, en gros, il sera tout aussi propre, il fera pas semblant de laisser couler la douche. Et ça va. Alors, au début, c'est très marrant, il y en a un tas comme ça, et après, ça va super loin, parce que quand il vous dit, en fait, ouais, non, ça, je le ferai pas, là, je vais désobéir, j'irai pas. Eh ben oui, en fait, ça va à la désobéissance civile, ça va jusqu'à la désobéissance civile, disons. Mais ça va pour les manifs, par exemple. Les gens qui disent, ah là là, mais c'est pas bien, ils veulent sécher l'école, ils vont manifester. Mais sèche l'école, mon gars, arrête d'aller à l'école, apprends des vrais trucs, quoi. Apprends ce que c'est le climat, apprends à parler anglais pour te faire comprendre, apprend à organiser une manif. Je vous jure, c'est pas si facile d'organiser une manif. Donc, voilà, quoi.
Marie Desplechin, d'une manière générale, comment faire croire aux enfants que le sérieux est du côté des adultes quand ils voient un clown pulsionnel comme Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale?
C'est le problème, il n'y a pas qu'aux enfants, c'est à nous aussi, hein. Quand on voit même les réactions, c'est-à-dire entre les... Mais c'est pas un clown, quoi, c'est un assassin. Moi, je rêverais que ces gens-là... Alors Trump, il est vu, il va claquer avant, mais il passe au tribunal, il soit condamné. Bolsonaro, il a ses enfants, ils peuvent y passer. D'ailleurs, Trump, il en a plein qui pourraient y passer aussi. C'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire et une tentative qui va bientôt être réussie d'assassinat. C'est catastrophique, quoi.
Et on parle de la planète, là. Hein.
Oui, on parle de la planète, oui. Oui, mais la planète, monsieur, c'est des gens, hein.
Il y a des gens qui vivent dessus, oui, bien sûr.
Il y a des gens qui vivent dessus.
Dont nous.
Il y a des gens, oui, dont nous. Et il y a des gens qui vivent dessus qui vont le payer vraiment très cher.
Ouais.
Et on sait, voilà, il y a beaucoup de gens incultes. C'est d'une ignorance crasse, d'une mauvaise foi, d'un cynisme, d'une cupidité. Alors, ça rejette en parangon de la raison, en disant « Oui, sois raisonnable, apprends comme les anciens, car tu vas continuer notre merveilleuse entreprise du progrès. » On est obligé, je dis pas d'en rabattre, mais d'essayer de penser les choses un peu autrement.
Mais comment est-ce qu'on alerte les jeunes générations sans être trop alarmiste, en fait, sans leur faire complètement peur, sans les tétaniser? Est-ce que l'humour, c'est toujours une bonne approche?
Oui, en fait, ça c'est prouvé, même c'est historiquement prouvé que c'est la bonne approche. C'est-à-dire, on l'aborde. Les jeunes générations, ils ont pas besoin de nous pour flipper, hein. Ils ont qu'à regarder la télévision. Après, nous aussi, on est angoissés. En fait, chacun de nous, quand on approche, là, je vois encore dernier rapport climatique, faudrait baisser les émissions de 7,6% par an si on ne veut pas que dans 10 ans, ça s'emballe d'une manière définitive. Depuis 10 ans, non seulement ça n'a pas baissé, mais ça n'arrête pas d'augmenter énormément. Donc, il y en a qui savent lire dans les gosses, hein, étonnamment. Il y en a qui regardent, qui écoutent, qui s'informent. Et ben, comment? C'est absolument sidérant. Donc, c'est une très grosse angoisse. Alors, après, si on reste à l'angoisse, on est cuit aussi. Donc, il y a une espèce de travail de penser à faire et tout. Et c'est vrai qu'y aller en rigolant, s'amuser en organisant une manif, en parler d'un point de vue proactif, essayer d'imaginer les choses. Dès que vous faites un truc, ça va beaucoup mieux. Et quitte à le faire, autant le faire en riant.
L'environnement n'est pas une préoccupation opportuniste chez vous, Marie Desplechin. Déjà en 2015, vous aviez co-signé en amont de la COP21 un discours destiné aux enfants pour les sensibiliser aux problèmes du réchauffement climatique. De l'avis de tous, le temps presse avant d'atteindre le point de non-retour. Est-ce que le fait que vous écriviez ce livre est la preuve que vous conservez un soupçon d'espoir?
Bien sûr, hein. Sinon... De l'espoir, on en garde, j'ai dit des trucs sinistres encore, mais de l'espoir, on en garde jusqu'au bout. L'espoir, c'est l'élan vital. Donc, voilà. C'est-à-dire, le réel, il est là. Il est comme ça. Et même si ça empire, à mon avis, ça va empirer, il y aura toujours ce réel. Il va toujours falloir faire avec. Donc, c'est une espèce de volonté d'action qui est le moyen de se sauver psychiquement. Sinon, on va être beaucoup trop triste et on peut pas offrir ça aux mômes. Mais de toute façon, les mômes, ils veulent pas être tristes. C'est le dernier sentiment, la dernière émotion dont ils ont envie.
Les diverses réactions très épidermiques auxquelles Greta Thunberg a dû faire face en raison de sa jeunesse ont dû vous ulcérer, vous qui justement faites une déclaration de confiance aux jeunes générations. Comment derrière on leur dit soyez proactifs quand ils voient les réactions de certains adultes face au discours de jeunes gens?
Il y a Greta Thunberg, mais enfin,
elle a cristallisé quelque chose quand même.
Oui, c'est ça, tous des vieux bons hommes qui vont mourir et qui pensaient qu'ils allaient pouvoir s'endormir et que tout le monde allait les glorifier, les mettre sur une statue en disant vous êtes formidables, vous êtes merveilleux et tout ça. Et en fait non, vous êtes nazes comme les autres, votre génération a loupé le truc, vos machins marchent pas, voilà, c'est autre chose qu'il faut faire. Alors ils sont ils sont pas contents, quoi. Voilà. Et après, ils disent des choses horribles en attaquant cette fille. Alors, après, c'est les mêmes qui vont glorifier Guy Môquet, hein. Ça, c'est-à-dire que des héros adolescents, des gens, c'est exactement les mêmes. Sur des trucs, en plus, moi, j'ai honte pour eux, quoi. Ils attaquent sur son physique ou sur le fait qu'elle soit autiste, ce dont on se contrefout. Enfin, moi, personnellement, je vois pas la pertinence du sujet dans le truc. Ils devraient avoir honte.
Vous écrivez pour la jeunesse depuis 1993. Est-ce qu'on s'adresse à cette jeunesse aujourd'hui de la même manière qu'il y a 25 ans?
Je ne sais pas comment répondre à cette question. Peut-être, oui, ou alors ça dépend qui.
Le thème, par exemple, du livre dont vous nous parlez aujourd'hui, ce n'est pas un livre que vous auriez écrit en 93.
Parce que peut-être que le sentiment de l'urgence était en 93 et était un peu assommé. Est-ce que je ne l'aurais pas écrit en 93? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas vous répondre. Voilà, joker.
D'accord, ok.
Et la Marie Desplechin donnerait quel genre de conseil à la Marie enfant? Est-ce qu'elle lui dirait aussi ne change jamais, comme vous le faites sur la couverture?
Ah ben non, si je la reprenais, je lui dirais, écoute, on va essayer de te faire des trucs, on va dire que tu vas pas y arriver, on va dire d'obéir. En fait, dis non. Ouais, mais chaque fois que j'ai obéi, c'était une mauvaise erreur, c'était un mauvais calcul. Chaque fois que j'ai obéi, ça s'est retourné contre moi. Ça, on le dit pas assez. Hein. Moi, le prochain que je vais faire, vous allez voir, ça va être là-dessus.
Désobéissez.
Bah, c'est-à-dire, vous faites pas arnaquer, quoi. Ouais.
Vous dites être capable, Marie Desplechin, de distinguer chez un adulte l'enfant qu'il pouvait être. Est-ce que vous pensez que j'ai... Quel genre d'enfant est-ce que j'étais, à votre avis?
Vous êtes de bonne volonté. Mm-hmm. Vous êtes très sociable. Mm-hmm. Vous êtes proactif. Je vous vois pas du tout en mélancolique. Et en même temps, je vous vois pas prendre toute la place. Vous êtes un bon gars dans un club de sport, j'imagine.
Un bon gars dans un club de sport. Je laisse la place à Charline, par exemple. Comment voyez-vous Charline? Quel genre de petite fille était-elle?
Est-ce qu'elle a pas bavardé au fond de la classe, Charline, pendant une époque?
Moi aussi, tout le temps.
Voilà.
Encore maintenant.
Ben voilà.
Si, c'est moi.
Sauf que là, maintenant, il y a un micro. Bon, ouais. Dans ce manifeste, l'héroïne se
fait... Pourquoi il fallait qu'elle ne change pas?
Oui, absolument. Dans ce manifeste dont vous nous parlez aujourd'hui, ce qui s'appelle « Ne change jamais », l'héroïne se fait 20 réflexions sur des sujets en lien avec la protection de l'environnement, le partage, l'entraide, la découverte, la protection et bien d'autres. Et par exemple, dans le partage, elle ne comprend pas que sa mère devienne hystérique quand elle lui emprunte un foulard, alors qu'elle en a 15. Il n'y a absolument rien d'autobiographique là-dedans, bien sûr.
Bien sûr qu'il y a des choses autobiographiques, mais elles sont autobiographiques de plusieurs personnes. Mmh. Elles sont autobiographiques de moi, mais elles peuvent l'être de ma fille ou elles peuvent l'être d'autres gamines.
Vous avez eu des petits cobayes, en fait, pour le manifeste.
Ouais, mais moi, étant le premier cobaye, hein, je garde un souvenir qui est assez précis de ces années-là, en fait. Peut-être pas de la petite enfance, mais de ces années-là, je me souviens bien. Et oui, j'ai piqué des trucs, pardon maman, quoi.
Parmi les conseils que vous donnez à vos jeunes lecteurs, il y a par exemple éviter les zones commerciales pour privilégier les petits commerçants locaux, préférer les douches aux bains, ne pas alimenter l'industrie du vêtement qui est la seconde la plus polluante au monde. Ce sont des règles simples pour nous les adultes, mais que nous devons inculquer aux enfants. En fait, ce livre devrait faire partie d'un programme scolaire, non?
Oui, sauf qu'il incite à copier, à désobéir, et à un certain nombre de choses que vu ce qu'est l'école maintenant, qui n'est pas proprement parler d'une école démocratique, des gens qui sont déjà débordés, les pauvres, c'est pas contre vous, mais je vois pas comment ils font avec. Et après, ces conseils, vous dites inculquer, mais je pense pas qu'on n'a pas forcément à inculquer. En fait, si vous expliquez, et c'est l'enfant, il comprend très très vite, enfin très tôt hein, les enjeux, si vous expliquez, ça vient de soi-même. Mmh. C'est-à-dire toutes les injonctions en disant « ne jette pas ci, fais ça ». Je me dis, c'est pas la bonne méthode, en fait. Et puis moi, l'espace de ma vie, moi, entre le moment où j'ai 20 ans et le moment où j'ai 60 ans, c'est là que tout est pourri, en fait. C'est en 40 ans, je participe à l'explosion de la consommation de tout, quoi, au gâchage du monde. Mmh. Donc, je veux bien faire des injonctions, je veux bien être à ma place de responsabilité, mais je pense que je peux essayer d'expliquer aussi, oui.
Et bien, pardon, je vous ai coupé.
Non, c'est moi qui l'ai, mais j'allais
vous dire.
On se fait des politesses. Non, pas du tout.
C'est un livre, en tous les cas, qui explique remarquablement bien toutes ce qu'on peut faire. Voilà. Ce qu'on peut faire d'une manière immédiate.
Et j'espère que c'est un livre qui pousse à chercher par soi-même aussi de l'information. Ouais, ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a partout. Et que c'est assez excitant, en fait, après, quand on va s'informer.
Marie Desplechin, ça s'appelle « Ne change jamais », manifeste à l'usage des citoyens en herbe. C'est édité à l'École des loisirs et c'est plus que recommandé par Pop. Marie Desplechin, j'ai un geste que je fais moi toujours. Aucune conséquence néfaste pour la planète. Savez-vous le faire? C'est ça.
Non, je ne vais pas le faire.
Vous l'essayez ou pas?
Non, je ne vais pas essayer, non, parce qu'on est filmé en fait. Si on n'était pas filmé, voilà.
C'est la punition, le contrôle de l'image, je vois. Vois très bien. C'est pas grave, c'est pour lancer les pop-up.
En cette émission spéciale littérature pour les plus jeunes, laissez-moi vous annoncer une programmation qui va les enchanter, celle du Hellfest qui vient d'être dévoilée. Les festivaliers pas avares de leur fessier pourront s'y délecter des sets délicats de Deftones, de System of a Down. Il y aura aussi Incubus, Korn. Ainsi que Deep Purple ou encore Faith No More. Et le Hellfest, ce sera du 19 au 22 juin à Clisson.
Abel Makonnen-Tesfaye est de retour. Mais qui est Abel Makonnen-Tesfaye, me direz-vous?
Est Abel Makonnen-Tesfaye?
The Weeknd, bien sûr. 3 ans tout pile après l'album Starboy, 1 an après l'EP My Dear Melancholy, il vient de dévoiler un nouveau titre, Heartless. I've been dodging death in the 6-speed. Amphetamine got my stomach feeling sickly. Et les fans de The Weeknd pourront aussi le retrouver dans Uncut Gems des frères Safdie sur Netflix.
Hugh Laurie, le mythique Dr. House et accessoirement père de Stuart Little, bientôt de retour sur le petit écran dans une série créée par Armando Iannucci, responsable de la non moins mythique série VIP, une nouvelle comédie sur le tourisme spatial qui se déroule dans le futur. Hugh Laurie et Ryan Clark, le capitaine du vaisseau de croisière américain Avenue 5, qui donne son titre à la série. Bande annonce.
Let's all take a second here.
They'll figure this out.
Who's the engineer here?
Who's the genius?
Who's the captain?
Who fucked up?
I want to be a spaceman.
What the hell's going on?
Should we be scared?
This is a safe space. Emotionally, physically, we're obviously in terrible danger.
Hey, you're not getting in some escape pod, are you?
Ma'am, if I had an escape pod, I would put you in it. Set the fucking thing on fire.
Et Avenue 5, ce sera en janvier sur OCS.
France Inter. Popopo. Antoine de Cône.
Oui. Stuart Little.
C'est moi. Oui, bravo Charlie.
Marie Despléchin dans la suite de Pop Pop Pop. On va accueillir Arnaud Valois pour parler du vilain petit canard. Chic. Ça vaut mieux que l'inverse. Mais avant ça, ma pop news à moi, c'est la sortie des 2 nouveaux morceaux de Paul McCartney, Home Tonight et In a Hurry. Et on écoute l'un des deux, à vous de deviner.
I'm taking you home tonight. I wanna make sure that you're all right. Looks like a cold, cold wind is blowing in. Taking you home tonight. We're like a train that's left the tracks. The world is falling apart. I can't be helped to put it back. But tell me where to start. I'm taking you home.
Aviez le choix entre Home Tonight et In a Hurry, et bien sûr, vous aurez reconnu.
In a Hurry.
Oui. Home Tonight, c'est un des 2 nouveaux morceaux de Paul McCartney. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon Et nous sommes toujours en compagnie de Marie Desplechin et vient de nous rejoindre Arnaud Valois. Bonjour.
Bonjour.
Arnaud Valois, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que vous avez grandi à Grézieux-la-Varenne, dans le Rhône, et fait votre scolarité à Tassin-la-Demi-Lune. Voilà,
vous
c'est fait.
Très renseigné.
Oui, je suis très très renseigné.
Ça n'existe pas, c'est sur Wikipédia.
Arnaud Valois, nous vous avons découvert dans le film 120 battements par minute, vous faisiez le 74e, hein, mais aujourd'hui, vous venez en tant que conteur, car le livre de Hans Christian Andersen revient 177 ans plus tard, adapté par vos soins, avec Héloïse Chouraki, illustré par Olivier Talec et mis en musique par Étienne Dao et raconté par vous. Extrait.
Bonjour darling, comment vas-tu aujourd'hui ?
La pie était justement là quand les œufs commencèrent à se fendiller. Très vite, ils éclosent tout à fait. Et c'était
pi, 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 pi.
De ce côté.
Pi, 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 pi.
De celui-ci. Des canetons qui tendaient le cou au dehors et faisaient tout le bruit qu'ils pouvaient.
Bon, c'est donc un livre CD comme nous venons de l'entendre. Pourquoi avoir choisi cette histoire de vilain petit canard dans l'immense catalogue des contes pour enfants ?
Parce qu'on a relu avec Héloïse pas mal de contes et on trouvait que les morales, particulièrement pour les femmes, ou les jeunes filles en tout cas, étaient assez désagréables. Mmh. Et le vilain petit canard, il y avait quelque chose d'un peu plus universel, même si la morale originale est parfois un petit peu douteuse, parce qu'en fait il se dit que bah d'un coup il a un signe, donc tout va bien. Mmh. Voilà, on a essayé d'aller chercher un petit peu plus loin que ça.
Mais vous diriez que c'était le conte qui avait la morale la moins compliquée à changer ? Parce que c'est quand même assez gratiné, généralement,
ouais.
Les contes qui
s'adressent qui avait le potentiel de plus d'universalité, ouais, je pense. Parce qu'on a tous été un vilain petit canard.
Oui.
Tous.
Et on le reste parfois.
Oui.
Ah oui.
Oui.
Non, mais racontez pas ça maintenant, Antoine.
Alors, vous aimez bien qu'on raconte des histoires avant de vous coucher ?
J'aimais bien ça, ouais.
Vous n'aimez plus aujourd'hui ?
Pas les mêmes, peut-être.
On vous a déjà lu du Marie Desplechin ?
Pour dormir, non. Non. J'en ai lu moi-même. On ne me l'a pas lu, non.
Mais vous, Marie, si on vous demande de choisir un conte, ce serait lequel, votre préféré ?
Hansel et Gretel. Je l'adore, celui-là.
C'est beau, Hansel et Gretel. Alors, pour faire ce choix du vilain petit canard, vous avez relu beaucoup de contes, comme vous le disiez à l'instant. Vous vous êtes rendu compte, comme vous le disiez aussi à l'instant, que de nombreuses morales étaient trop ou pas assez acceptables aujourd'hui. C'est un avis que vous partagez, ça, Marie Desplechin, sur les contes ?
Je vais faire ma pédante, hein, je vous signale.
Allez-y.
Bon, Andersen, c'est spécial comme conte parce que c'est un type qui l'écrit et c'est pas des contes qui viennent de la tradition comme Hansel et Gretel. Mm-hmm. Et en fait, ce qui est marrant dans les grands contes d'Andersen, c'est qu'il parle toujours de lui. Il était très grand, très moche, hyper pauvre, né dans un trou pourri. C'est vraiment le type foireux. Et en fait, il était tellement dingue qu'il s'en est quand même sorti. Il faut lire l'histoire d'Andersen, ça vaut quand même. Et il raconte toujours son histoire de conte en conte. Et je vous jure, il est la petite sirène et à un moment, il est le vilain petit canard. C'est vrai, il était vraiment horrible. Et son rêve, c'était d'être chanteur et danseur à l'Opéra de Copenhague, vous imaginez. Alors, c'était vraiment une horreur, quoi. Et en fait, il est devenu à sa manière un signe. Même si personne l'aimait parce qu'il est toujours resté moche, il était assez très sûr de lui et très désagréable.
C'était le TEDx de Marie Desplechin sur Hans Christian Andersen.
Arnaud, la question est peut-être naïve, mais est-ce qu'une lecture de ce type, ça se prépare presque comme un rôle au cinéma ?
Pas tout à fait. Ça passe par l'écriture déjà, enfin la réécriture, l'adaptation.
Parce que vous avez participé
à
l'écriture.
Voilà, donc du coup, il y a quelque chose de très inclusif tout de suite. Quand on reçoit un scénario, on rentre dans le personnage. Là, c'était plus global et puis c'était vraiment l'idée de faire le projet avec Étienne. C'est Étienne qui m'a proposé de faire un conte. C'était un rêve pour lui, pas de travailler avec moi, de faire un conte pour enfants, je précise. Après, ça s'est bien passé, hein, mais voilà.
Mais vous avez dit, arrêtez-moi si je me trompe, avoir vu quelques résonances entre Nathan, votre personnage de 120 battements, et le vilain petit canard.
Oui.
Et forcément, un moment où ça se télescope peut-être
un
peu.
Oui, c'est vrai. Et puis, aussi avec moi-même, en fait.
Oui.
Ouais, sur comment on fait pour devenir soi-même, pour se trouver, par quelles étapes ça passe. C'était très plaisant de se plonger là-dedans.
Donc, il y a la figure d'Étienne Dao qui arrive assez tôt hein, dans le projet.
Oui.
Vous organisez ça avec lui et il a l'idée de ce projet de conte parce que, je le cite, hein, selon lui, les contes lus sont souvent bâclés. Vous partagiez cet avis ?
Il y a quand même des... Mais qui partagent avec moi des références qui sont dingues, comme Gérard Philippe... Ouais. Perrier, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand on s'est arrêté sur le vilain petit canard, on a écouté tout ce qui s'était fait.
Oui.
Voilà, par curiosité. Et c'était assez navrant. Mmh. Sur les adaptations surtout, en fait, très très simplifiées. Mmh. Et l'idée avec Héloïse, c'était vraiment de garder de la littérature là-dedans, de pas simplifier les choses, que si on a un mot compliqué, on va mettre un mot plus facile, synonyme, quelques phrases avant ou après, pour pouvoir, avec la lecture, avec les parents, orienter l'enfant.
Mais vous avez une manière très différente de poser votre voix de celle des prédécesseurs que vous venez de citer. Est-ce que votre formation de sophrologie a aidé la narration? Mais non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand on vous écoute, c'est hyper apaisant. Il y a un truc très plaisant à l'écoute.
Moi, je m'en rends pas compte. Fondamentalement, c'est pas quelque chose que j'active.
Bah là,
c'est quelque chose qu'on
s'assoupit un petit peu doucement.
Hein. Ah non, c'est pas une question de s'assoupir, mais c'est hyper agréable.
Ouais, certainement. Après, c'était Étienne qui conduisait tous les enregistrements, donc certainement il y a eu ce désir-là chez lui. Et puis j'avais envie d'embarquer les gens qui écoutent, les parents, les enfants, tout le monde. Voilà.
Vous incarnez différents rôles, d'ailleurs.
Ouais, ça c'était très drôle à faire.
Est-ce que vous pouvez, qui a été votre préféré? Est-ce que vous pouvez parler comme la pie jusqu'à la fin?
Alors la pie, la pie j'aime beaucoup.
La pie qui est anglaise, évidemment. Ouais. Ouais.
Bonjour, darling. Comment vas-tu aujourd'hui? Et j'aime beaucoup le bulldog aussi.
Ouais.
Je veux pas te manger. Ça c'est beaucoup amusé.
Et dans ce disque, vous racontez et doublez, et j'en suis fort aise, et puis vous chantez aussi.
Je chante aussi, oui.
Et la preuve.
Numéro 9 fait la teuf, numéro 9 fait la teuf, il est ouf notre œuf, avec sa tête d'œuf.
Une expérience qui vous a plu, que vous comptez renouveler?
Déjà, c'était une expérience qui m'a plu beaucoup, mais c'était sur un petit titre d'une minute. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir. Je travaillais avec un débutant, donc c'était très difficile l'enregistrement. J'étais pas du tout soutenu.
Monsieur Dao, voilà, il n'y connaît rien.
Non, donc du coup, c'était vraiment assez désagréable. Donc non, plus jamais.
Marie, vous n'avez jamais eu la tentation de lire un de vos livres, vous-même?
Oh, mais j'ai lu un truc sur Oli.
Ouais,
ça fait partie de votre maison,
bien sûr.
Et ben, les gens étaient très gentils avec moi. C'est très bien passé.
C'est vrai.
Oui, ça n'existe pas en 10, mais c'était un très bon moment.
Ça
existe.
Oui, c'est trouvé partout. C'est un podcast. Quel est le titre de votre
histoire? La cabane.
La cabane.
C'est simple.
Oui.
Je connais un autre auteur d'Oli, qu'on a raconté une histoire.
Oui, mais c'est pas pour les enfants.
Enfin, c'était le but, normalement.
Finalement, c'est pas tant que ça pour les enfants. Bon. Ça s'appelle Le vilain petit canard. C'est raconté par Arnaud Valois, qui nous rendait visite aujourd'hui. C'est d'après Andersen, avec une musique d'Étienne Dao, et c'est illustré par Olivier Talec, et ça se trouve chez Gallimard Jeunesse. Voilà, c'est absolument épatant. On approche de la fin de l'émission, et c'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Alors, j'appelle mon ascenseur. Où est-ce que je vais aller, moi, aujourd'hui? Tiens, peut-être le moins 3. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Un sac d'orange. Étrange. Allez, j'embarque. Voilà la cave. On voit pas grand-chose, hein. Ouh là. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Un canard? Oui, bonjour. Oh là là, oh, qu'est-ce que tu es moche, dis donc. Dis donc, tu serais pas un vilain petit canard, toi? Oh, pardon, je voulais pas te blesser non plus. Non, non, t'es pas si moche que... Enfin, bon, t'es pas joujou quand même. Hein. Quoi? Pourquoi j'ai des oranges? Ah, tu connais pas le canard à l'orange? Mais non, reviens. Non, mais non, je plaisantais. Mais non. Eh, reviens, viens, ça va être le premier jour du reste de ta vie.
Un matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles. Changer aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie, plus confidentiel. Pourquoi vouloir toujours plus beau, plus loin, plus s'effondre en quelques secondes. Sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies. Les plus confidentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui. Et le premier jour du reste de ta vie. C'est providentiel. Tu peux exploser aujourd'hui et le premier jour du reste de ta vie. Mon accidentel. Oui, tout peut changer aujourd'hui et le premier jour du reste de ta vie. Confidentiel. Confidentiel.
Premier jour dans Pop 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 sur France Inter, c'est un morceau signé Étienne Dao et extrait du premier jour. Voilà, c'est ici que se termine notre émission. Merci infiniment Marie de Pléchin de nous avoir rendu visite.
Merci à vous.
Pour parler de ne changer jamais, ne change jamais. Hein, à l'école des loisirs, conseil à toute la jeune génération pour qu'elle se bouge un peu les fesses et qu'elle essaye de sauver la vieille. Je parle de la génération.
C'est pas exactement le...
C'est pas ça. Bon. Et merci Arnaud Valois.
C'est sa lecture. Il a le droit. Chacun la sienne.
Bah, voilà. Merci Arnaud Valois, le vilain petit canard. C'est chez Gallimard Jeunesse, l'adaptation d'un conte d'Andersen, justement avec la musique d'Étienne Dao. Voilà, merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Tiffany Battistel, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, elle. Lily Allen sera avec nous dans ce studio, mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jeunes 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme disent les petits canards à la fin de leur tuto Canard à l'orange sur YouTube. Ça veut dire abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.